Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 17e de cette 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Guy Sier.
Bonjour.
Maire de la commune de Fleury. Vous êtes également conseiller communautaire. On va revenir, bien entendu, dans notre troisième partie sur cette commune, sur les problèmes qu'il y a, les solutions qui sont apportées actuellement, et puis peut-être éventuellement d'autres regards. Mais je pense qu'il y aura assez à dire, n'est-ce pas, Guy Sier, sur la commune de Fleury.
Les sujets sont innombrables et le temps est toujours
voilà,
limité.
Et on ne les abordera pas tous. Notre sommaire prévoit de revenir sur cette polémique à propos de l'alcool et du vin. Alors, Madame Buzyn sème la zizanie dans le monde viticole. Intitule-tu ceci, Michel ? Après quoi, un sujet sur... Je sais que les livres te sont chers et lorsqu'une librairie est menacée, ça te fait mal au ventre. Donc, les librairies indépendantes du centre-ville de Narbonne menacé, enfin certaines, pas toutes heureusement. Deuxième sujet, un truc que tu appelles les dindons de la farce, alors de Marc Aurignan, c'est pas une recette de cuisine, rien à voir avec la farce. Et puis on finira par les 120 journalistes accrédités à l'Élysée. Alors là, c'est le sujet tel qu'on les adore à Radio Bar. On est entre Kafka, Ubu, enfin... Si on veut. Commençons par Madame Buzyn, notre chère... Alors rappelons que c'est notre chère ministre de la Santé, parce que peut-être peu de gens le savent.
Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très médiatique. Hein. Oui. C'est la ministre en charge de la Santé. C'est une dame qui est médecin de profession, donc qui connaît parfaitement son sujet et qui, comme notre invité aime à le souligner, en politique, il n'est pas mal.
D'être compétent.
Souhaitable, d'être compétent dans les domaines qu'on est censé gérer.
J'aime bien la litote. Il n'est pas interdit d'être compétent.
Voilà. Jean-Claude, quel tintouin dans les chais, les vignes et les médias régionaux.
Quel tintouin.
Il a suffi que le journal Le Midi Libre, citons-le, titre, le vin n'est pas un alcool que le journaliste de ce journal présente comme étant la phrase qu'il fallait retenir, absolument retenir, de l'interview de Madame Buzyn.
Alors elle dit le
sur
vin...
un plateau de télévision, à savoir la 2, où elle avait dit, entre autres, dans son interview, que le vin était un alcool comme les autres. Depuis le monde viticole, en fait, le monde au sens large du terme, régional, et plus qu'en émoi, en fait, proteste sur tous les canaux en disant pique-pendre de cette dame.
Oui, sauf que ce genre de situation, on l'a connu déjà X fois. Avec d'autres ministres.
Bien sûr. Alors que cette dame, elle est dans son rôle. Ouais, en fait, elle est en charge notamment la santé publique. Et quand l'on sait que 45 000 en fait, personnes meurent chaque année des conséquences ou des suites de l'abus d'alcool. L'alcool en général. Elle est tout à fait légitime à dire que voilà, l'alcool et la trop forte consommation d'alcool pose un sérieux problème de santé publique. Et elle précise que le vin est un alcool comme les autres.
Mais finalement,
et comment lui donner tort, Jean-Claude?
Mais c'est archi banal, finalement.
C'est banal. Il faudra qu'on démontre le contraire. La bière, comme le cognac et au milieu, le vin, sont des boissons alcoolisées. Alors elles sont plus ou moins alcoolisées. Voilà, la bière l'est moins, le cognac l'est plus que le vin. Mais ce sont des boissons alcoolisées.
Ce qui
alcoolisées.
Est amusant, c'est la façon dont la polémique naît et enfle. Enfin, finalement, j'ai envie de dire, Madame Buzyn fait le buzz et elle a peut-être pas voulu, mais elle a réussi à faire son buzz.
Moi, j'ai lu des choses absolument incroyables. Enfin, notamment un ancien député socialiste du département de l'Hérault, qui s'est fait ratiboiser aux dernières élections législatives, et qui visiblement est en manque de sa dope politicienne habituelle, quotidienne. Il tient des propos du style, il est le vin, mais Madame Buzyn, c'est lui qui parle, c'est pas moi, c'est le fruit d'une histoire, le ferment d'une culture, un élément d'identité, le résultat d'un travail, d'homme passionné, qui mérite votre respect. Et il termine, ce que, visiblement, vous ne leur accordez pas, madame. Enfin, un truc de fou, quoi.
Oui. Il y a peut-être des choses vraies là-dedans. Sauf que le vin reste une boisson alcoolisée.
Ensuite, je lis un président de Safer du Gard, qui a cette métaphore très équivoque, quoi, quand même, Jean-Claude. le vin, c'est un lubrifiant social.
Ah oui, alors, celle-ci, elle est bonne.
Alors, je me suis dit, ou est-ce qu'il sort d'un dîner ou d'un déjeuner, ce président de sa affaire, où la exagérer sa consommation de vin, justement, pour tenir des propos aussi aberrants, quoi.
Tu t'imagines, hein, à l'épicerie, vous me donnerez 3 bouteilles de lubrifiant social. Alors, du rouge ou du rosé?
Ah oui, alors il n'y a pas que ça. En fait. Bon, et puis, il y a monsieur, en fait, qui, dont je ne donnerai pas le nom, qui possède un grand domaine viticole, en fait, dans la Clap, hein, qui est allé, en fait, dans son discours, dans un style très hugolien, en fait, d'un lyrisme absolument incroyable, en fait. Hein. C'est une plante séculaire, en fait. Hein. C'est une tradition, en fait, un patrimoine, un lien social qui magnifie le cœur des hommes, en fait, etc., etc. Alors, je me suis dit, mais enfin, voyons voir quand même. Ce genre de discours, en fait, dans le cognac, par exemple, on pourrait tout aussi légitimement le tenir. En fait, le cognac en fait, fabrique d'une certaine manière aussi une identité, en fait, d'un tiroir, d'une culture. Le rhum de la Martinique, qui entre parenthèses est le meilleur rhum qu'on puisse trouver dans le monde entier, quoi. Pareil, il fabrique une identité. En fait, donc je veux dire, ce sont des arguments qui paradoxalement, pour ceux qui les tiennent, en fait, banalisent, en fait, le vin, en fait, comme tous les comme
tous les alcools, qui sont contre-productifs,
qui sont totalement contre-productifs. Alors, ce qui amène d'ailleurs à penser que c'est vrai que la ministre, qui était en son rôle, a peut-être pas fait attention à ce genre de petits mots, quoi. De sorte que je tente à penser
elle
que...
Elle a levé une tempête qu'elle n'attendait pas, probablement.
Alors, c'est vrai que en tout cas, dans notre région, en fait, la prudence s'impose quand on traite de ce sujet-là et qu'il y a des mots qu'il ne faudrait pas trop prononcer.
On a le lubrifiant social sensible.
De sorte que je tendance à recommander aux deux, quoi, en fait, à la ministre, mais surtout, en fait, à nos représentants du monde viticole, en fait, hein, de s'accorder quand même sur un minimum d'hygiène intellectuelle, quoi, de médecine intellectuelle que Nomi Paracels, dans le temps, en fait, hein, avait résumé de manière très simple, à savoir que tout était poison, rien n'était poison. Tout était dans la dose. En fait,
oui, ben voilà.
Et s'il fallait effectivement terminer une chronique et une certaine leçon adressée à nous, permettez-moi cette pédanterie, en fait, à nos dirigeants, c'était effectivement de suivre cette recommandation qui me semble de bon sens.
Quand il parle, qu'il n'oublie pas que tout est dans la dose.
Et que l'ivresse, en fait, notamment dans les mots, en fait, nuit à la santé comme l'alcool.
Voilà, absolument. Bonne conclusion avant de passer au deuxième sujet. Alors, celui-là, il est un peu moins drôle. Les librairies qui sont menacées, d'ailleurs, là aussi, c'est pas nouveau, le phénomène.
C'est pas nouveau, mais j'ai reçu un courriel, en fait, il y a pas très longtemps, d'un libraire qui est un de mes voisins du quartier de Bourg, la librairie Lendemain, qui se trouve
à Narbonne.
Oui, à Narbonne, qui est parti pendant un mois, en fait, à Taïwan, parce que sa fille y réside, là-bas, et qui, m'annonçant sa fermeture pendant un mois, m'annonçait aussi que dès son retour, le 19, il se préparait à fermer sa librairie en mettant en évidence le fait que la baisse de la vente, la chute des ventes du livre, de manière générale, les difficultés économiques et les problèmes de centre-ville qui touchent tout le monde, et en particulier les libraires.
Qui s'additionnent. Chacun est un problème déjà en soi.
Voilà. Et donc, il faut quand même que je fasse un petit papier là-dessus, parce que j'ai tendance à penser, peut-être à tort, que le livre n'est pas une marchandise comme les autres. C'est pas bon, on va pas des livres. Et le statut d'un libraire n'est pas celui d'un marchand de vêtements ou de pizza, en fait. C'est un statut un peu différent.
Donc c'est pas un alcool comme les autres.
Non, c'est un bon alcool, justement, le livre. De ce point de vue-là, il faudrait le consommer alors sans aucune modération, en fait, de mon point de vue. Hein. Il faut acheter le livre, et surtout en librairie indépendante, même si je dois l'avouer, pour ma part, quoi, que j'achète des livres en librairie, toujours en centre-ville, où que je sois, mais ça ne m'empêche pas d'acheter de temps en temps des livres que je lis sur ma liseuse Kindle, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Voilà. Mais le problème, c'est que je suis allé faire un peu le tour des libraires du centre-ville de Narbonne, que ce soit Librelis, que ce soit Camus, en fait, que ce soit l'autre librairie qui est dans la porte de Béziers. Ils sont tous dans une difficulté financière.
Le problème est identique.
Camus, la librairie Camus est en train de vendre son fonds. Il ne trouve pas de repreneur. Pourquoi? Parce que là aussi, plus que dans d'autres commerces, si l'acheteur ne finance pas l'achat avec ses fonds propres en intégralité, il n'a aucun prêt en trésorerie des banques. Parce que c'est un secteur encore plus compliqué et difficile que les
autres.
Donc
il y a une vraie fatalité dans la situation.
Libellis, pareil, etc. Mais ce que je voulais faire remarquer surtout, c'est que de la part des pouvoirs publics, que ce soit la commune, que ce soit l'agglo, qui a une compétence en fait en la matière, en matière culturelle, ce que je constate, c'est que ces librairies ne sont pas considérées comme des acteurs culturels en tant que tels. ce que moi je prétends qu'il devrait être. Hein. Et que, je donne un exemple. Dans une ville voisine dont je ne donnerai pas le nom, hein, qu'on fait des librairies en centre-ville, alors que la librairie, en fait, la librairie, je termine là-dessus, alors que la librairie historique était en cessation de paiement et en liquidation. Eh bien, ils ont créé une association 1901, qui permet en fait, au maire de la commune, dont je ne tairai le nom, de subventionner l'association, qui elle-même ensuite redistribue en fait, un achat de livres massifs et autres animations auprès des librairies. Et l'association en question bénéficie de ce fait, puisqu'elle est association, de subventions de la DRAC, de la Direction régionale de l'action culturelle, qui permet effectivement de faire jouer à ces acteurs un rôle culturel, enfin, structurel, dans le centre-ville.
Alors, voilà, je ne dis pas ça. C'est peut-être une solution
conseils,
possible.
Mais effectivement, pour rappeler, en fait, à nos édiles locaux qu'il y a des moyens, effectivement, de soutenir ce secteur-là d'activité voilà. Très particulier.
À condition.
Que sont les libraires de centre-ville.
À condition qu'on ait bien décidé que le livre est un produit qu'il faut défendre.
Absolument.
Et on marque une première pause.